Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour Dom Pierre Douat.
Bonjour Nathalie.
Alors c'est la dernière ligne droite, vous êtes libéré après cette série. Merci de tous vos passages cette semaine à la radio. Vous êtes de passage ici à Lourdes, ce sanctuaire marial. Il est important pour vous dans votre vie de prêtre, dans votre mission aujourd'hui, puisque vous êtes recteur du sanctuaire du Mont-Saint-Michel.
Oui, dans ce cas, il a toujours été un lieu où je suis venu depuis petit, en famille, ou après, quand j'étais plus jeune, pendant ma formation au séminaire, après comme prêtre. Ouais, c'est un endroit où j'aime bien venir. Ouais.
Alors, j'aime bien une citation de Benoît XVI, sans perdre de vue, bien sûr, les anges dont vous parlez, puisque vous êtes auteur de ce roman, Le roman des anges, aux éditions Salvator. Et puis, je vous conseille de le parcourir, de le lire et puis de l'offrir autour de vous. Il se lit facilement. Benoît XVI disait à propos des anges, et puis nous avons parlé, et vous avez nommé aussi l'ange gardien, la présence invisible de ces esprits bienheureux nous est d'une grande aide et d'un grand réconfort. Ils marchent à côté de nous, ils nous protègent en toutes circonstances, ils nous défendent dans les dangers et nous pouvons avoir recours à eux à tout moment. Ces anges peuvent nous aider à discerner s'il y a un danger autour de nous. Vous avez parlé aussi, on peut avoir aussi de mauvaises connexions et être peut-être en connexion avec des mauvais anges et peut-être des mauvaises présences. Qu'en est-il, Dom Pierre Douat ?
C'est vrai que souvent, quand on parle de l'ange gardien, protecteur du danger, on pense souvent à... Alors c'est vrai que c'est arrivé que les anges interviennent de cette façon-là, une sorte de protection physique, comme si l'ange était destiné à être notre garde du corps. Alors c'est pas tout à fait faux, parce que c'est vrai que les anges peuvent intervenir aussi physiquement, mais le principal danger dont les anges doivent et peuvent nous protéger, c'est non pas les dangers physiques, mais les dangers spirituels. Hein. Ça c'est très clair dans les Écritures. L'objectif du démon, c'est de nous séparer de l'amour de Dieu. C'est ça qu'il veut. Et bien, par opposition et en réaction à cette intention du démon de nous séparer de Dieu, les anges, eux, ont pour mission de nous protéger du danger de cette séparation, du danger que ça représente, de l'isolement que ça va entraîner, de la peur que ça va entraîner, etc. Et donc, oui, les anges interviennent pour nous protéger de ces dangers spirituels. Alors, parfois, on ne le sait même pas, mais ils le font. On s'en rend même pas compte, on les remercie pas. Et d'autres fois, parce que nous les avons sollicités, parce que nous avons été spécialement sensibles à leur action, on va pouvoir se rendre compte, et oui, qu'ils sont intervenus pour nous aider dans une tentation particulièrement grande, pour nous sortir d'un désespoir particulièrement important. Mais après, l'avantage avec les anges, c'est qu'ils sont pas rancuniers. Que nous les remercions ou pas, ils continueront à agir. Que nous les sollicitions ou pas, ils continueront à agir. Voilà, mais encore une fois, plus nous les sollicitons et plus nous les remercions, plus nous devenons capables d'être sensibles à leurs interventions.
Donc on entend amitié avec l'ange, avec les anges. Et puis, je ne vais pas terminer sur une note négative, bien sûr, mais on avait parlé précédemment aussi d'un combat. On avait évoqué aussi l'archange Saint-Michel, chef de l'armée céleste. Qu'en est-il ? Vous en parlez dans votre roman, mais qu'en est-il de, parmi tous ces anges, il y a l'ange déchu, c'est Lucifer. Voilà, je voulais pas terminer cette série des clés pour vivre sur Lucifer, mais qu'en est-il de Lucifer ? Quels sont ses pièges ? Comment apprendre à discerner ? Et là, je pense aux auditeurs qui vous écoutent, là, maintenant, si on est en présence d'un des serviteurs de Lucifer. Mmh. Hein, voilà, parce que Lucifer existe, et il a sa part aussi de serviteur de ses démons.
Mmh. Alors Lucifer, donc c'était, d'après ce que nous disent les Écritures, c'était un ange créé bon par Dieu, comme tous les anges, qui s'est détourné de Dieu à un moment de son histoire. Il a choisi d'entrer en révolte contre Dieu, et comme je le disais tout à l'heure, son objectif, c'est, puisque lui s'est séparé totalement de Dieu, il veut nous faire entrer dans cette séparation. Il veut que nous aussi, nous soyons séparés de Dieu. Et lui, comme ses sbires ou ses aides de camp, comme vous voulez, les autres démons qui le suivent, eh bien, il va tout faire pour nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, les pères du désert se sont amusés, parce que les pères du désert, c'est au 4e siècle, dans le désert égyptien, ces hommes qui ont choisi de tout quitter pour suivre le Christ et qui ont été confrontés de fait à des assauts particulièrement violents du démon. Et ils se sont amusés à faire une sorte de liste des symptômes du fait que le démon s'empare ou est en train de gagner du terrain dans notre âme. Et c'est toujours intéressant de revenir à ces choses-là qui sont très simples et qui sont faciles pour nos auditeurs aussi, pour qu'ils comprennent quels sont les signes, en fait, où là, il y a peut-être quelque chose qui est en train d'échapper à la bonté de Dieu. Premier signe qu'il donne, c'est la tristesse. Alors, il n'est pas question de tristesse. Si je perds quelqu'un de ma famille, j'ai le droit d'être triste, bien entendu. Hein. Bon, je parle là de la tristesse qui s'empare vraiment de notre âme. Une tristesse qui confine au désespoir, une tristesse qui nous fait détester la joie, en fait. Voilà, donc lorsque on se sent habité par cette tristesse-là, la tristesse, ça, d'après un père du désert, c'est la mauvaise odeur que laisse le démon partout où il passe. Voilà, cette tristesse-là. Deuxième symptôme, c'est l'orgueil. Alors, ça, c'est un peu plus évident, on sait que c'est l'arme principale du démon, hein. L'orgueil, l'égoïsme, l'individualisme, etc. Alors, on est tous orgueilleux, ça veut pas dire que le démon nous tient complètement sous sa coupe, mais lorsque l'orgueil devient vraiment un mode de vie où j'ai toujours raison, je n'ai jamais demandé pardon à personne. Vos auditeurs pourraient se poser la question, je pourrais me poser la question. Quand est-ce que j'ai demandé pardon à quelqu'un pour la dernière fois? Si je m'en souviens pas, ça veut peut-être dire que le démon, là, il a gagné quelque chose sur moi. Il a pris du terrain sur moi.
Il a pris beaucoup de pouvoir.
Il a pris du pouvoir, voilà, ouais. Parce qu'il m'a fait ressembler à lui. En me plongeant dans un orgueil comme ça, un petit peu, où j'ai besoin de personne, j'ai toujours raison, j'ai pas besoin de Dieu, etc. Et puis, un troisième, il y en a plein, ils en donnent plein, mais un troisième symptôme, ça peut être la... comment ils disent ça ? L'orgueil, je me souviens de cette image, ils disent que c'est une sorte de jus que le démon nous sert à boire. C'est comme ça qu'ils en parlent à propos de l'orgueil, les pères du désert. Une sorte de soupe dégueulasse, là, qui nous sert à boire et qui fait que ça va donner à toute notre vie une saveur insipide, une saveur triste. Finalement, on est triste parce qu'on est orgueilleux, parce qu'on n'a personne à aimer, on n'a personne à adorer. On est réduit à n'aimer que nous-mêmes. C'est insupportable comme vie. Qui veut vivre comme ça? Le troisième symptôme, c'est celui de la solitude. Mais la mauvaise solitude.
Quand vous nommez la tristesse, on peut penser aussi à tous ces états aussi de dépression. Oui, il y a beaucoup de dépression. La dépression n'est autre, est habitée profondément par la tristesse.
Oui, alors là, il faut faire attention. C'est pas parce que je suis déprimé que je suis victime du démon, surtout pas. Parce que la dépression, c'est une maladie. Voilà. C'est une maladie qui a ses traitements, qui a ses... Et là, le démon n'est pas forcément en jeu. Par contre, lorsque je sens que dans ma tristesse, il y a quelque chose de spirituel, où je suis atteint vraiment dans mon âme, pas simplement dans mon esprit, mais vraiment dans mon âme, c'est-à-dire même dans ma confiance en Dieu, dans ma joie de me savoir aimer de Dieu, etc. Là, bah, tiens, il y a peut-être un truc à aller chercher, à aller confier au Seigneur dans sa miséricorde, qui n'est pas simplement lié à mon état dépressif, mais qui peut aussi être lié à ma vie spirituelle.
Alors, quelle est un peu l'ordonnance pour, quelque part, guérir de ces maux?
Voilà. La confession. D'abord, la confession. Les pères du désert, là aussi, donnent toute une pharmacopée. alors, parmi elles, il y a la miséricorde, mais il y a aussi, alors, ils parlent de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, et la charité envers les pauvres. C'est-à-dire que c'est vrai que, quand je suis pris de tristesse, moi, c'est quelque chose qui marche très bien pour moi. Quand je suis saisi de tristesse, quand ça m'arrive d'être un peu inquiet, voilà, je vais voir un pauvre. Pas simplement pour me rassurer sur moi-même, finalement, je ne vais pas si mal, mais pour me rendre compte que je peux encore donner quelque chose. Et quand je peux encore donner quelque chose, ça veut dire que je suis encore vivant. Voilà. Et donc ça, c'est que ça nous aide à sortir aussi de cette mauvaise tristesse, de cette tristesse qui peut venir du démon, que de nous mettre au service des plus pauvres. Voilà. Et donc, les pauvres, c'est pas ça qui manque.
Donc oui, ils sont à nos portes. Oui,
donc, parfois dans notre propre maison. Donc,
Ne cherchons pas très loin. Voilà. Cherchons aussi la confession. Alors, pour ceux et celles parmi nos auditeurs qui n'ont jamais approché de ce sacrement de confession, il faut être baptisé pour se confesser.
Il faut être baptisé pour se confesser.
Quelles sont les conditions pour se confesser?
C'est la seule condition. Mais quand on n'est pas baptisé, sans recevoir le sacrement de la confession, on peut déjà déposer le poids de sa peine, de son péché auprès d'un prêtre, on peut en parler. Mais pour recevoir le sacrement, il faut effectivement être baptisé. C'est la seule condition. Être baptisé et avoir le désir sincère de déposer son fardat entre les mains de Dieu.
Le désir sincère.
Oui.
On ne l'a pas toujours. On vient par habitude, pour ceux qui ont, je dirais, l'habitude de vivre de ce sacrement de confession.
On peut, même si c'est rare, ouais. Mais c'est le pape François qui disait ça. Il disait quelquefois, on a du mal à regretter nos péchés. Ben, quand on a du mal à regretter nos péchés, il faut regretter de ne pas regretter. Voilà, commençons par ça.
Et puis c'est un bon début.
Voilà, c'est ça.
C'est un bon début, il faut toujours un début. Donc un début aussi peut-être à lire un peu plus. Les bonnes lectures, ne nous trompons pas aussi des ouvrages, parce que des ouvrages, vous en avez parlé lors d'un entretien dans cette série. On en trouve dans tous les supermarchés, sur les étagères, sur les anges, et en particulier ce monde un petit peu ésotérique, donc attention danger. Revoyez peut-être vos bibliothèques, vos livres à la maison, discernez, et puis lisez surtout, et là vous n'allez pas vous tromper, la Sainte Bible, donc la parole de Dieu. Non, avec l'Ancien Testament et le Nouveau, et bien sûr, votre roman, dont Pierre Doat, ce roman s'intitule « Le roman des anges », il se lit très facilement, il est paru il y a quelques mois aux éditions Salvator, et puis on attend bien sûr votre prochain roman. Merci à vous, et
merci,
puis
Anthony.
Nous vous souhaitons une bonne fin de retraite,
merci.
Puisque la retraite est pour les prêtres. Au
C'est
revoir.
Ça. Merci.